entre le mouvement et le Cachin oriental. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. 35 pays africains participent depuis lundi à Kinshasa à la 14e Assemblée Générale du Fonds d'entretien routier africain. Ces pays parmi lesquels la RDC, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Gabon ou encore le Madagascar réfléchissent notamment sur comment rendre plus efficace leurs fonds d'entretien routier respectifs. La RDC qui possède un important réseau routier d'au moins 150 000 km de longueur, dont près de 87 000 km de routes de desserte agricole, est aussi confrontée aux nombreux besoins pour maintenir ses réseaux en bon état. Pour faire face à cette situation, certains observateurs estiment qu'outre les ressources des péages collectées à cette fin, il faudrait ouvrir le marché de ces infrastructures aux investisseurs privés. Qu'en pensez-vous? 081-890-5315, c'est le numéro d'appel pour nous joindre en direct dans ces magazines mis en onde par Paul Baganyama, Eric Franklin Luciaga assure la réalisation et Kiro et la Miji au micro pour la présentation sous la supervision de Martin Sebojango. Aussi belles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La RDC connaît des difficultés nombreuses en ce qui concerne le maintien en état, en bon état de son réseau routier. Nous nous intéressons particulièrement aux routes des dessertes agricoles qui, pour la plupart, les travaux se font en terre battue, ce qui pose des sérieux problèmes avec la pluviométrie abondante dans plusieurs provinces de la RDC. Alors, comment arriver à maintenir en état ces réseaux routiers? Beaucoup d'observateurs estiment qu'outre les ressources de péage collectées pour financer ces travaux, il faudrait que le marché soit ouvert aux investisseurs privés qui puissent financer les travaux et peut-être instaurer aussi le modèle de recouvrement des frais de dépenses. Alors, comment arriver à rendre tout cela efficace? C'est la question au centre de notre échange. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central. Merci de vous être joint à nous pour cet échange. Bonjour, Maître Adrien.
Oui, bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à tous les amis auditeurs.
Et par expérience pour vous, comment on peut arriver et rendre plus efficace le financement, l'entretien de ces routes, surtout en ce qui concerne les routes des dessertes agricoles, entre le péage, le financement de l'État, mais il y en a aussi qui pensent qu'on peut laisser le privé prendre la charge de ces routes et savoir aussi comment récupérer l'argent dépensé pour financer les travaux.
Oui, merci Pierrot de la parole que vous m'accordez. Je pense Pierrot que j'ai juste en train de saluer d'abord l'initiative de nos amis qui se sont réunis à Kinshasa pour réfléchir autour de cette question-là. Mais il y a aussi des évidences qui sautent aux yeux, entre autres nous autres qui sommes dans une province où il n'y a presque rien comme route. Donc, au vrai terme du nom, je ne sais pas maintenant, cette initiative-là, c'est pour aboutir à quoi? Bon, mais néanmoins, pour répondre maintenant à la question, je pense que la deuxième opinion, je me rallie aussi à ça, parce que au jour d'aujourd'hui, il est vrai que l'État congolais a démontré ses limites pour la réhabilitation, l'entretien, donc des routes de dessertes agricoles et certaines routes aussi donc d'une importance capitale. D'ailleurs, pour votre information, parce que présentement je suis à Kananga, qui est devenu le chef-lieu de la province du Kasaï central, mais en termes de routes ici, c'est un peu compliqué et pourtant Kananga est au centre, il faut chercher la nationale numéro 1. Mais cette route-là est impraticable. Et puis, certaines routes de dessertes agricoles du côté Mueka, Ilebo, Zekese, Luisa, Kazumba, c'est aussi impraticable. Moi, je pense que l'initiative selon laquelle il faut inviter les privés pour que ces privés mettent leurs moyens et que le gouvernement voie comment est-ce qu'il faut négocier avec eux pour les retours, cette initiative est bonne, à mon humble avis. Parce que ces routes de dessertes agricoles pourront vraiment aider la population dans la mesure où, lorsque nous savons très bien que les trains sont devenus un peu rares et puis le véhicule a aussi du mal à rouler parce qu'il n'y a pas de route, je pense que les privés peuvent intervenir. Mais deuxièmement, Théro, je pense que avant que les privés n'interviennent, il faut qu'il y ait des fortes garanties qui seront présentées, donc seront soumises à ces privés, parce que ce n'est pas n'importe qui viendra oser pour jeter un peu son argent comme ça, sans qu'il y ait une garantie sécuritaire et aussi le mécanisme donc de récupération de ce que lui aura à dépenser comme moyen. Et puis, troisièmement, je pense que le problème de péage, c'est aussi une très bonne chose, mais nous devons quand même éviter, comme j'aime toujours les dire, quitter les systèmes archaïques. Parce que même chez nous ici, le péage est là dans presque beaucoup de nos routes. Mais lorsque vous investiguez, vous vous rendez compte que cet argent-là n'entre pas réellement dans les comptes du trésor. Ça entre dans le compte des individus. C'est comme ça que l'État a du mal à récupérer cet argent-là pour entretenir des routes. Si on changeait le mécanisme de paiement, si on mettait en place une commission de suivi, parce qu'il y a quand même certains billets qu'on remet aux taxis motards, aux propriétaires de véhicules, je pense que à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, pourquoi pas même du mois, on pouvait passer en revue pour voir que notre tel avait réceptionné autant de carnets, autant de billets, pour qu'on puisse un peu voir combien il a dépensé. Et moi, je pense que ça sera aussi un moyen efficace.
Merci.
Pour qu'on puisse mettre ça en application, Pierrot.
Merci beaucoup, Adrien. Vous estimez que l'État congolais étant limité dans les dépenses des réhabilitations de l'entretien des routes, il serait mieux, comme on le voit ailleurs dans d'autres pays, des investisseurs privés, des actionnaires qui prennent en charge une route, mais quitte à avoir des garanties juridiques et des garanties sécuritaires qui puissent permettre à ce que la personne qui a investi l'argent dans l'entretien d'une route puisse en récupérer. Mais souvent, l'argent est récupéré en termes de péages qui sont instaurés sur les différentes routes. C'est ça l'expérience d'autres pays. Vous pensez qu'ici, on le fait, ça peut résoudre la question, et surtout les routes qui doivent relier les centres-villes dans les territoires où ces territoires qui sont des greniers agricoles qui ne savent pas évacuer leurs produits aujourd'hui. Merci beaucoup, Adrien, pour cette intervention de Kananga au Kasaï central. Clovis, vous êtes en Bujumbaï, dans la province du Kasaï oriental. Bonjour, Clovis.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les amis de la radio Kasaï.
Voilà. Et d'une manière plus efficace, comment on peut arriver à rendre ces travaux d'entretien de routes plus durables? On connaît toutes les difficultés que nos provinces connaissent, surtout pour relier les territoires avec le centre-ville. Alors, pensez-vous aujourd'hui, comme en Bujumbaï, par exemple, s'il y a des actionnaires privés, ils peuvent se mettre dans la réhabilitation, l'entretien des routes, et quitte à savoir comment juridiquement ils peuvent récupérer leur financement, Clovis?
Ah oui, bien merci, Théo. Il faut normalement une gestion rationnelle. D'abord, je vais parler tout d'abord au niveau de nos péages. Il faut qu'il y ait tout d'abord un contrôle. Quand tu as un contrôle et un sérieux dans ce côté-là, on va voir que non, l'argent qui va entrer dans le trésor public sera bien géré. Mais sinon, une fois qu'on va laisser cet argent-là entrer dans des caisses privées ou dans des poches privées, là, on va faire des milliers d'années et nos routes seront toujours dégradées comme nous sommes en train de les constater. Et cela a de l'impact sur l'économie du pays. Puisqu'aujourd'hui, là, quand on voit, il y a certains villages qui sont lointains, mais qui n'ont pas accès vraiment au centre de production ou de consommation, ça cause problème. Nous avons des variations de prix. Alors, je crois qu'au niveau des investisseurs qui peuvent venir pour travailler dans ce secteur, il faut des garanties juridiques, comme mon prédécesseur venait de le dire tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas travailler aussi comme ça sans qu'il y ait des garanties. On ne sait pas quand on va travailler, si on a aussi quelque chose qu'on va gagner en retour. Je crois qu'il faut seulement que l'État congolais puisse mettre les moyens en œuvre et chercher à faire en sorte qu'il puisse aussi privatiser ce secteur-là et surtout qu'il y ait des clauses qui sont bien connues, pas des choses. Aujourd'hui, on signe un contrat, par exemple, avec des investisseurs, et demain, ils sont répartis et ils ne travaillent pas. Ce qui fait encore qu'à un moment donné, ça va nous laisser un dégoût. Je crois qu'il faut seulement de bonnes garanties juridiques qui vont tourner autour de ces contrats-là avec les investisseurs, puisqu'aujourd'hui, là, nous avons des sérieux problèmes, même s'il faut organiser des élections. Les coins et les recoins, on n'a pas du tout d'accès là-bas. Je crois qu'il faut, à ce moment ici, chercher à faire en sorte qu'il y ait une communication au niveau de l'intérieur, et cela va bien nous permettre, même s'il n'y a pas de par exemple, des voyages au niveau de l'avion, même s'il n'y a pas de train, on est capable de voyager à travers même les bus, pourquoi pas aussi les voitures. Mais si aujourd'hui on n'a pas, par exemple, l'aviation, on n'a pas la voie ferroviaire, ça va nous causer problème. Et ceux qui produisent, par exemple, du côté des villages, ils ont du mal à se rendre en ville. Et regardez maintenant ce qui va être comme conséquence de la flambée des prix. Ok, l'État congolais doit capitaliser vraiment cette idée-là, cette initiative-là, elle est très gentille et bonne. Mm-hmm. Et si elle sera un jour matérialisée, je pense que nous aurons un Congo qu'on va parler de la modernité.
Merci beaucoup, Clovis. Je parlais de Félicien qui va intervenir tout à l'heure. Vous avez dit qu'on peut avoir des garanties juridiques pour que les actionnaires privés peuvent prendre en charge la réhabilitation et la gestion de routes. D'ailleurs, ce point de vue a été aussi partagé par Alphonse Kalimankachama qui nous a écrit des mouvements et la ville où vous êtes actuellement. Il dit ceci, c'est qu'il pense qu'on peut arriver à ouvrir les marchés aux investisseurs privés en raison. Dans beaucoup d'autres pays, c'est là que c'est fait. Des actionnaires privés qui sont responsables, qui financent les travaux d'une route, qui savent savoir comment récupérer le financement à travers les usagers de la route par en péage. Faudrait-il aussi avoir la gestion rationnelle, comme le disait tout à l'heure Clovis, de frais de péage. Cela va nous aider à faire baisser les prix des denrées alimentaires qui coûtent cher en ville, parce que il n'y a pas de routes pour pouvoir les acheminer. Et ça, c'est le point de vue d'Alphonse Kalimankachama qui nous a écrit de Mboujimaï. Étienne Kazadi lui dit ceci. La démarche, une bonne démarche bien sûr, mais le problème n'est pas là. La question reste celle de savoir toutes les mesures que nous, toutes les pistes de solutions que nous proposons, que ce soit dans les différentes rencontres, même dans nos émissions, sont-ils intégrés par le pouvoir public pour pouvoir atteindre les objectifs de l'entretien de nos réseaux routiers. Jacques, qui nous a écrit depuis Ouvira, au sud Kivu, lui, pense que les défis majeurs aujourd'hui, c'est la libéralisation du financement des secteurs et d'une manière décentralisée. Cela veut dire ça, c'est prévu déjà dans la Constitution, qu'au niveau des provinces, il y a les routes d'intérêt provincial et les provinces peuvent contracter des prêts pour pouvoir financer les travaux de ces routes-là, des dessertes agricoles, mais pourquoi pas aussi permettre à ce que et les routes soient ouvertes aux investisseurs privés qui peuvent aussi récupérer sur les usagers de la route le fonds investi dans les travaux. Félicien, vous êtes avec nous à Kinshasa, mais en attendant, bénédiction, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Merci de vous être joint à nous pour cet échange. Bonjour, bénédiction.
Bonjour, Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi.
On vous écoute.
Pierrot, moi, je ne suis pas pour la réhabilitation, mais je suis pour la construction. Parce que si une fois vous essayez un peu de voir l'état dans lequel nos routes sont actuellement, ça nécessite en tout cas une construction de nouvelles infrastructures et non une réhabilitation. Pierrot, moi, je ne pense pas en tout cas que la saison de construire des routes serait en tout cas très nécessaire pour désenclaver les territoires nationaux. Moi, j'ai pensé, je l'ai inscrit dans mon message sur Facebook, j'ai évoqué le cas des voies ferrées, parce que vous rappelez bien l'explorateur Stanley, quand il explorait la RDC, il a martelé sur la nécessité de voies ferrées au niveau du territoire national. Parce qu'actuellement, à Péro, si vous essayez un peu de voir ici, dans la province de Chistibou, la province de Chistibou compte 8 territoires. Mais si vous voulez vous rendre dans les territoires de Chabunda, c'est plus cher que si vous voulez vous rendre à Dubaï. C'est très honteux, M. Péro. Par rapport simplement à notre question d'appeler les investisseurs de venir investir chez nous pour rendre un peu nos routes modernisées, moi je pense que c'est très salutaire parce que si vous essayez un peu de voir la réalité sur le plan mondial, vous allez voir que ce sont en tout cas les privés qui ont fait en sorte que de nombreuses routes sur le plan international, en tout cas, deviennent des routes mondiales. Parce que l'État lui-même, en tout cas, ne peut pas être en mesure de faire ça. Et si vous essayez un peu de voir, par exemple, les pays comme la France, les pays scandinaves, là, les pays très développés, vous allez voir que ce sont des privés qui investissent leurs fonds et qui font en sorte que les routes du pays soient un peu développées. Mais, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faudra que l'État soit, l'État veille à la protection juridique. M. Pierrot, il faut retenir, l'État ne devrait pas, une fois les investisseurs sont là, l'État ne devrait pas croiser les bras. L'État devrait aussi investir dans, parce que l'État a cette prérogative de veiller à la sécurité, parce que les routes vont tout simplement dans l'angle de protection sur le plan alimentaire, parce que vous voyez, 90% de nos routes sont, 90% du territoire national actuellement est enclavé. C'est très honteux pour un pays à dimension continentale. C'est la raison pour laquelle l'État ne devrait pas aussi croiser les bras. L'État devrait aussi s'y mettre pour un peu voir qu'est-ce qu'il va aussi faire. Mais la protection juridique des mers aussi est une chose en tout cas très importante. En tout cas, il faudra aussi penser aux voies ferrées. Parce que plusieurs ici dans notre pays, si vous allez aussi vous essayer un peu de voir l'état de nos voies ferrées, en tout cas, c'est très désolant. C'est ça mon intervention, M. Perrault. Bon but à la terre.
Merci beaucoup, Bénédiction. Vous avez posé quelques préalables. Vous avez d'abord insisté sur le fait qu'aujourd'hui, les routes et les sites agricoles, il faudrait les construire plutôt que les réhabiliter, vu les abondantes pluies que nous avons. Ça ne peut pas résister. Et vous estimez aussi qu'au-delà des routes, pour vous, il serait prioritaire de réhabiliter la voie ferrée. C'est elle aussi qui peut résoudre la question. Vous avez évoqué les difficultés de quitter Bukavu pour atteindre Chabunda et d'autres territoires de la province du Sud Kivu, mais en évoquant la question des investisseurs privés dans cela, la réhabilitation des routes, et vous posez le problème des garanties juridiques qui peuvent accompagner ces investisseurs dans les contrats qui peuvent être signés, et comment, à travers les usagers de la route, ils peuvent récupérer les capitaux qui ont été investis dans ces travaux-là, et surtout en ce qui concerne les routes et les dessertes agricoles. Merci beaucoup, Bénédiction Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Ça, vous avez suivi les uns et les autres, Félicien. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Ah, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
D'une manière plus efficace, il y en a qui pensent qu'au-delà de péage, tout ce qui s'est fait, comme ailleurs, s'il y a des investisseurs privés qui peuvent prendre la charge, être actionnaires sur une route, on le voit aux États-Unis, en France et ailleurs, ils peuvent récupérer leurs capitaux à travers de mécanismes juridiques, par exemple de péage, tout ça, ça peut faciliter le travail aujourd'hui de ces réseaux routiers que nous avons, parce que l'État ne peut pas arriver à faire face aujourd'hui, dans les conditions actuelles, à ces grands besoins. Félicien, quel est votre point de vue?
Merci Pierrot. Moi je dis que s'il y a un domaine où l'État doit vraiment laisser le tout à l'initiative des investisseurs privés, c'est vraiment les infrastructures routières. Parce que ouvrir le marché des infrastructures routières aux investisseurs privés est vraiment l'idéal et même avantageux pour l'État et dans l'ensemble. Parce que une route, et pour la construire, ça demande beaucoup d'argent et c'est un investissement à long terme. et l'État, en général, n'a pas toujours les moyens pour faire face à tous ces kilomètres de routes que nous avons en fait. Et il faut laisser vraiment les tours entre les mains des privés si on peut les trouver. Même l'organisation des systèmes de péage, jusqu'à ce que l'investisseur privé récupère tout ce qu'il a investi. Et comme ça, la route nous reste parce qu'elle est là et puis nous pouvons nous occuper nous-mêmes peut-être de l'entretien. Et quand il a déjà terminé à récupérer tout ce qu'il doit récupérer. Mais pendant qu'il est là, et c'est lui-même qui doit chercher l'entretien. Mm-hmm. Et ça serait vraiment un avantage très très important. Mais nous avons des problèmes en Afrique et en général et en République démocratique du Congo en particulier. Nous avons un retard très considérable dans le domaine des voies de communication, alors que le développement de notre pays en dépend, et de tous les pays africains. Mais les difficultés aussi en dehors du cadre juridique et des garanties juridiques qu'on peut donner à une investisseur privé, c'est que les pays africains ne sont pas instables, les pouvoirs ne sont pas instables. Avec tout ce que nous avons de coups d'État, de rébellions, c'est ça peut-être qui inquiète les investisseurs privés pour venir investir dans ce domaine. Mais si nous pouvons aller vers des institutions ou des régimes stables, ça peut attirer les investissements. Donc, c'est que la balle se trouve du camp de nos dirigeants pour qu'ils prennent les choses au sérieux parce que le développement, ils ne le feront pas seuls. Il faut toujours l'intervention des autres. Surtout quand nous voyons dans notre pays, dans toutes les frontières que nous avons avec d'autres pays, les contrats se trouvent à la frontière. Vous arrivez, vous êtes dans une route très mauvaise, très mauvaise du côté de la RDC, et dès que vous arrivez à la barrière, de l'autre côté, c'est une bonne route. Et ça nous frustre un peu, il faut qu'on y pense, et même qu'on puisse quand même sauver l'honneur de ce côté-là.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez qu'il y a le cas des manques de stabilité politique dans nos pays, hein, ce qui peut aussi ne pas faciliter aux investisseurs de pouvoir, bien sûr, mettre les capitaux dans les travaux des routes parce qu'on a des incertitudes. On ne sait jamais quand la situation peut basculer et comment on peut récupérer ces capitaux. C'est un problème qui se pose, mais c'est une question cruciale qui doit être considérée comme une priorité par le gouvernement africain et la RDC en particulier. Merci beaucoup, Félicien. 081-890-1534, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, hors de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Et nous recevons dans ce studio pour cet échange citoyen, honorable député Franck Diongo. Vous êtes président du parti politique de l'opposition, mouvement lumumbiste progressiste, mais aussi ingénieur conseil en construction civile. Voilà le décasquette que vous portez en tant que politique, mais aussi technicien. Et nous, notre échange aujourd'hui, c'est comment, en ce qui concerne par exemple les routes et dessertes agricoles, comment d'une manière plus efficace on peut arriver à maintenir en bon état ces réseaux. Il y en a qui pensent qu'au-delà des péages, tout ce que l'État fait, on peut aujourd'hui ouvrir le marché aux investisseurs privés qui peuvent aussi prendre en charge ces travaux et quitte à savoir sur le plan juridique comment récupérer les capitaux investis dans cela. Mais avant d'aller dans ces propositions des auditeurs, passez-moi un peu d'une manière brève la situation de nos routes aujourd'hui sur le plan des besoins réels en termes de construction, de réhabilitation et de maintien du réseau d'une manière bref. Merci pour m'avoir invité. Malheureusement, vous ne m'avez pas prévenu. C'est par respect au peuple congolais que j'ai accepté de venir intervenir. Premièrement, la situation est plus vaste que ce que vous posez comme préoccupation. Le problème le plus important, c'est le problème des mobilités. Les mobilités des citoyens, les mobilités de biens et services pour permettre à l'ensemble des citoyens d'être dans une intégration. Ceci dit, le secteur des transports qui comprend le secteur routier, et dans le secteur routier, vous avez les cas des routes et des sites agricoles. Mm-hmm. Vous avez le secteur ferroviaire, vous avez le secteur également fluvial. Normalement, un pays comme la République démocratique du Congo devrait avoir une politique normale de construction et de réhabilitation de toutes ces voies-là. Parce que le débat est sur le secteur routier, quel est le problème que nous avons de manière générale? Le secteur routier congolais est dans un état de délabrement très avancé et s'empêche la mobilité des citoyens et de leurs biens. Et tous ceux qui ont étudié l'économie des transports comprennent que si on étudie en fait, tous les spécialistes qui me suivent, qui ont eu les cours d'économie des transports, ils savent que lorsque la route est défectuée, quelle est la conséquence? Le prix des denrées alimentaires et des biens et services augmente. Parce que ça prend beaucoup plus de temps. Ceci dit donc, la difficulté que nous avons au Congo, c'est un problème de manque de politique de gestion et manque de politique de financement. Et un problème de vision. Dans les cas des fonds d'entretien routier, dans les cas congolais, qu'on peut extrapoler dans d'autres pays africains, il se pose trois difficultés. Le problème de gestion, le problème de transparence, dans la gestion des fonds reçus pour entretenir les routes et les problèmes d'affectation et de choix. Comment on affecte l'argent? Comment on choisit? Quels critères pour prendre un tronçon routier pour affecter? Le FONER a une couverture juridique, il y a une loi au Congo, il y a une base juridique qui donne au FONER le monopole de collecter les recettes pour les fonds d'entretien des routes. Mais lorsque je prends les cas, les tronçons Kinshasa-Matadi, un exemple. Kinshasa-Matadi a des difficultés. Quelles difficultés? Les fonds issus de péage. Le gouvernement, pendant qu'il y a une loi, le gouvernement a signé un contrat privé avec les Chinois, un opérateur chinois, qui collecte les fonds, qui les gère, et il n'y a aucune structure congolaise n'accède pour contrôler. Donc, et vous trouverez qu'il y a une conséquence. À un moment donné, il y a eu la route Matadi, la tronçon entre Kinshasa et Matadi, il y a eu coupure dans la route. Il n'y avait pas 3-4 jours d'immobilisation parce que l'opérateur privé avait un retard dans l'intervention pour entretenir. Alors, au niveau maintenant de route de 17 agricoles, quel est le problème qu'il faut résoudre généralement, même au-delà de secteur agricole, des routes de secteur agricole? Le réaménagement, la construction ou la réhabilitation des routes résout trois problèmes. Au-delà des problèmes de mobilité, il y a un problème de sécurité, un problème de croissance économique, parce que ça permet à ce que les cultivateurs ou les fermiers font, le récolte, pour les inséminer, et les marchandises issues de l'agriculture dans les centres de consommation. Donc, il faut que les routes soient vraiment à un état qui permet une bonne mobilité. Et ça résout ce problème de sécurité. Donc l'État, lorsque la population est menacée, quand tu vois toutes les provinces de l'Est, il y a les problèmes de sécurité. S'il n'y a pas de bonnes routes ou les voies de communication telles que les chemins de fer ou la voie navigable ne permet pas d'accéder à la population, on ne sait pas résoudre le problème de sécurité. Également, le problème de croissance économique. Voilà les vrais problèmes que nous avons au pays. Donc, c'est bon, il y a un élément qui a une base juridique, le FONER, mais ces fonds ont violé la loi. Au-delà qu'il y a la loi, le gouvernement signe des contrats privés. Donc, les partenariats public et privé n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais, mais ça doit s'inscrire dans le cadre de respecter la loi. Mais les Congolais sont des déficits et des visions. Ce qui fait qu'il y a un gap entre le besoin d'entretenir les routes et le financement qu'on a. Il y a un déficit de financement, pas de déficit de politique. Parce que dans la République démocratique du Congo, les budgets de 8 milliards, même si on n'avait pas les fonds d'entretien routier, les budgets de 8 milliards et de 9 milliards, ne peut pas être un budget qui doit résoudre le problème routier du Congo. Parce que d'abord, le réseau routier congolais, c'est un réseau routier conçu par le Belge. Le réseau conçu par le Belge, ce n'est pas un réseau de développement. Et dans les 150 000 km que les Belges ont laissés, leur fil de route n'a pris que 50 000 km. Donc, c'est là 30 à 50 000 kilomètres. Donc, beaucoup des routes, mais des états agricoles, ne sont pas ouvertes, ne sont pas entretenues. C'est bloqué. Donc, il se pose un très sérieux problème pour repenser. D'abord, il faut repenser les réseaux routiers congolais, repenser les réseaux routiers congolais, avoir une politique de la mise en valeur du Congo, et dans cette politique de mise en valeur du Congo, inscrire en priorité les voies de communication, qui sont les routes, qui sont les chemins de fer, qui sont les voies navigables.
Mais aujourd'hui, si quand on regarde les difficultés, même les degrés de pauvreté dans beaucoup de nos villages, ce qui se pose aujourd'hui avec les systèmes de péage, nous avons déjà un problème des activités économiques qui sont très très difficiles. Est-ce qu'on peut arriver à résoudre cette question, bien sûr, avec le fonds. Est-ce que le fonds lui-même, il peut être assez intéressant pour couvrir le véritable besoin? Parce que quand on regarde aujourd'hui les financements des fonds dans la plupart de nos provinces, ce sont les routes en terre, mais avec ce que nous avons comme pluviométrie, ça pose un sérieux problème. Mais est-ce que la collecte des fonds de péage peut vraiment suffire pour faire face aux problèmes de routes déjà qui sont en terre avec la pluviométrie?
Non, voilà ce que je vous avais dit. Le péage... Déjà, j'ai donné l'exemple d'une route où le péage est effectif, Kinshasa-Matadi-Boma. Il y a une mauvaise application du péage. Je vous ai dit que tout l'argent collecté par les fonaires, tout l'argent collecté dans cette tronçon-là pour le péage ou par le péage, ce sont des Chinois qui prennent. Donc, ni le Parlement congolais, aucune structure congolaise ne sait combien d'argent on perçoit. Voilà un mauvais exemple déjà du péage. Alors qu'il y a une loi, le FONER, qui est l'autorité de fonds pour l'entretien des routes, a le monopole de collecter le recettes. Qui n'a pas ça? Je ne pense pas que j'aurais souhaité que le directeur national des FONER me contredise.
On sera avec lui la semaine prochaine.
Me contredise. Parce qu'il sait que c'est comme ça. Et je voudrais donner la conséquence dans le pays. Mm-hmm. Ça, c'est une route nationale numéro 1. À tel point qu'il y a eu coupure du côté de Bazangoumou, dès 3 jours, tous les véhicules avaient été immobilisés. Donc, le péage ne suffira pas au regard de l'étendue du pays. Et d'ailleurs, au regard de la pauvreté du pays, c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on a une politique, une vision de la mise en valeur du Congo, prenons un exemple. J'ai besoin d'avoir 40 à 50 milliards de dollars par an pour permettre de réhabiliter aussi les routes. C'est alors que j'ai parlé de la mise en valeur du Congo. Un budget avec une telle ambition développera une politique de partenariat qui permettra de construire. Même dans la constitution du Congo, le Congo a été mis en valeur par des privés. À l'époque de la colonisation, avant la colonisation, ce sont des privés. C'est un problème de partenariat avec le public et le privé. Mais dans le partenariat public et privé, il faut une garantie de la démocratie, une garantie de la stabilité, une garantie de la paix pour que les investisseurs aient la confiance d'investir. Et aujourd'hui, le péage ne peut pas être l'outil de construction des routes parce que les Congolais sont pauvres. Les villageois n'ont rien. Les villageois n'ont rien. Lorsqu'on ne peut pas tout libéraliser, on libéralise le commerce de l'eau, on libéralise le commerce de l'électricité, libéraliser les routes pose un problème de compensation. Alors si il y a un engagement entre un privé dans le partenariat public et privé, l'État doit couvrir la part de péage pour la population. Donc, en conséquence, dans les routes des déserts agricoles, pour moi, on ne peut pas procéder à des péages. Même s'il y a opérateur un partenariat privé, public, l'État doit prendre en charge ce que la population aurait dû payer et compenser parce que les pauvres, la population, une population qui va dans les champs ou qui doit quitter d'un village à un autre village, il peut avoir peut-être quelques bottes de riz pour peut-être 100 dollars, il va payer combien? Il va aller au retour, non. Bref, pour moi, le péage dans les villages, dans les routes des déserts agricoles, on ne peut pas le faire. Il est vrai, ce sont des routes en terre. Parce que je dis en priorité, réhabiliter les routes, c'est d'abord réhabiliter les routes en terre. À l'époque des Belges qui pouvaient quitter de Kinshasa, vous traversez le Kasaï jusqu'au Maniema avec une voiture VW, s'il vous plaît. Ce sont des routes en terre. Et à travers le monde, une route construite n'est pas seulement une route bituminée ou une route asphaltée. On peut avoir une route en terre bien construite, bien bâtie. D'ailleurs, maintenant, il y a des technologies de stabilisation des sols. Vous devrez avoir une route en terre stabilisée. Donc, ce n'est pas toujours une route bituminée, une route asphaltée, une route bétonnée, qui est une bonne route, non. L'essentiel, c'est comment on entretient ces routes, la même en terre, comme vous avez dit, en période de pluie. Comment il faut l'entretenir? Ça demande une permanence dans l'entretien. Parce que même les ponts doivent être entretenus. Parce que les Congolais ont une difficulté à entretenir des ouvrages. On ne sait pas entretenir les ouvrages. Et regardez le site de Martyr. Ça a été un bel ouvrage. Mais est-ce que c'est entretenu?
Voilà. Alors, rapidement, avant d'écouter les auditeurs, vous avez posé la question, vous l'avez dit, avec la pauvreté, ça serait difficile aujourd'hui que les routes et les sites agricoles ont pu instaurer des péages, parce que la population elle-même a déjà des séries de félicités. Mais alors, quelle est la part de gouvernements provinciaux, par exemple, dans leur responsabilité, dans leur compétence pour arriver? Mais quand on regarde aujourd'hui l'état dans lequel se trouvent nos provinces, peuvent-ils recourir aujourd'hui à des emprunts extérieurs pour faire face à ces problèmes de routes qui sont à leur responsabilité?
Non, il faut voir, bien entendu, la répartition de pouvoir dans la Constitution. Vous avez, au niveau des infrastructures, telles que les routes, vous avez les routes, bien entendu, d'intérêt national. C'est-à-dire que là, c'est le gouvernement national qui a le pouvoir d'intervenir. Il y a, vous avez, les routes provinciales et les routes locales. Mais parce que la politique du pays doit permettre la mobilité des citoyens et la sécurisation des citoyens, parce que l'État, le gouvernement central, le gouvernement national, a le devoir de sécuriser tous les Congos. Et lorsque les routes ne sont pas accessibles, même dans une route où ça appartient à une province, ça crée un problème de sécurité à résoudre. Donc, dans une action conjuguée, dans un développement harmonieux, ça doit permettre à ce qu'on conçoit une politique, c'est-à-dire que vous avez dit, une difficile politique. Une politique qui permettra à ce que les routes soient bien entretenues. Je vous donne un exemple de Figi. Quel est le critère de choix d'entretenir les routes? Même avec l'argent des fonds, parce qu'il se pose un problème également, comment maximiser, rationaliser les fonds reçus, même les tout petits pélas qu'on a? Est-ce que c'est rationnellement utilisé? Est-ce que c'est rationnellement géré? Il se pose un problème de gestion d'abord depuis qu'on a. Donc, si le pays qu'on a ne sait pas le gérer, la répartition entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, il y a une bonne harmonisation, ça crée un problème d'équilibre également. Parce qu'aujourd'hui, le choix est plutôt politique que les critères, dans les critères d'affectation, que les choix de développement économique ou les choix d'équilibre entre les provinces. Quand je regarde les camps de Sigui, la route numéro 1, Kinshasa Matadi Mwanda, le fonds perçu n'entretient que la route numéro 1. On ne prend pas cet argent pour affecter dans d'autres routes telles que les routes des 17 agricoles. Alors que l'argent perçu, la route numéro 1, c'est la nationale numéro 1 de tous les Congolais qui passent là-bas. Et la route a été construite et réfléchie par le fonds du gouvernement central. Alors tout ça, il se pose un problème de gestion, un problème de mégestion, un problème de décision politique adéquate, efficace.
Et la question sur les priorités, vous l'avez dit, voilà.
Et les formes de priorité.
081-890-5533, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Gentil, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central. On a écouté tout à l'heure Adrien Maître, qui était avec vous à Kananga, qui a évoqué cette question, qui n'est pas aujourd'hui considérée comme une priorité, vu les difficultés de cette province de pouvoir relier le centre-ville de Kananga avec d'autres territoires. Pour vous, alors, comment on peut procéder dans votre milieu pour arriver à résoudre cette question, surtout en ce qui concerne les routes de dessert agricole, Gentil?
Merci, M. le journaliste. Je dis bonjour à notre invité du jour. C'est déplorable et ça fait si mal. Pourquoi se parle cela, M. le journaliste? Vous pensez que les pays comme l'Angolais ici peuvent passer la RDC? Mais je ne crois pas. Mais aujourd'hui, on parle de l'Angola. Dans quel sens? Si vous quittez Dundu, qui est la province de l'Angola jusqu'à Luanda, vous irez toujours par des biches et non des gros camions. Maintenant ici, ça se fait mal dans le sens que vous voyez un gros camion qui quitte tu s'assoies juste en Panama. Mais tu vois des voyages comme ça, des passagers, on les fait pas de bus. De tout ça, est-ce que nous, on manque de possibilités pour construire des routes? Qu'est-ce que c'est pas pour les codes de réhabilité, c'est les codes de construire, comme notre, le candidat de bien, le président qui a parlé, il fallait construire et non réhabiliter. Si on se voit qu'on n'a pas en concession de contribuer, nous pouvons même demander à des investisseurs qu'ils viennent pour faire des routes chez nous ici. Dans les aspects, quand ils doivent élaborer le terrain, élaborer aussi le système de contrôle et de revenir là pour préparer ce que nous faisons. Parce que nous, on manque la volonté de le faire. Maintenant, je voulais demander aussi à notre invité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre quand même la République démocratique du Congo? Je ne sais pas ce qu'on dit. Si on parle d'un terrain, c'est à travers des routes. Je peux quitter ici vers ma tête. S'il n'y a pas de route, je ne peux pas me déplacer. Quelles sont les précautions à prendre pour améliorer quand même ces beaux pays? Parce qu'un pays sans la route, on ne peut pas parler d'un pays.
Alors là, Jean-Pierre, vous avez demandé à l'invité venait de le dire tout à l'heure que ça doit être inscrit dans une vision, vous lui demandez, mais enfin, on en parle chaque fois, comment on peut arriver à mettre la RDC à ces niveaux-là? Mais j'ai dit tout à l'heure à nos auditeurs que Jean-Pierre, c'est pas sa voix, hein, c'est un problème avec son téléphone, et la voix est normale, mais là, tout de suite, et ça a changé quand on l'a mis sur les antennes, c'est un problème avec son téléphone. Hein. Alors, mais on vous a quand même suivi, vous avez comparé la situation en Angola, de Dundu à Luanda, vous êtes en bus, mais quand on regarde aujourd'hui les gens qui partent de Kinshasa pour aller au Kassai, vous partez de Kinshasa en bus jusqu'à Kikwitz, mais dès là, il faut que les camions jusqu'à Chikapa, Chikapa jusqu'à Mbujimayi. Alors, vous avez posé la question à notre invité, qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour que cette question soit résolue, que la RDC soit au niveau où on d'un pays avec un réseau routier normal. Merci beaucoup, gentil. Priscilla, vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, madame.
Bon, moi, j'aimerais intervenir par rapport au sujet à l'événement qui se déroule ici à Matadi.
Il y a quoi, madame?
Je vais intervenir par rapport à l'événement qui se déroule ici à Matadi.
Mais quel événement vous évoquez, madame? Vous évoquez quel événement, Matadi?
Il y a l'événement sur le capu service des paroles aux auditeurs. Le premier sujet, ils ont parlé sur les phénomènes branchement de l'université. Le deuxième sujet sur le médicament.
Oui, madame, là, il faut vous rendre à l'hôtel Lédia, je crois bien. C'est là même en ce moment où l'émission est en train de passer. Hein. Ça ne se passe pas à Kinshasa. Ici, nous sommes déconnectés de Matadi. Vous êtes en direct de Matadi. Allez-y rapidement, je crois bien, à l'hôtel Lédia. Vous allez trouver toutes les deux équipes sont là au capu service et paroles aux auditeurs aujourd'hui et demain. Comme ça, vous allez intervenir en direct là-bas. C'est sur place à Matadi que l'émission se déroule. Allez-y à l'hôtel Lédia. C'est là où les équipes se trouvent en ce moment. Merci beaucoup, Madame Priscilla, de nous avoir appelé de Matadi. Christin, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour, Christin.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Christin Kaye. J'interviens à partir de la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Je commence par vous saluer l'invité qui est dans les studios de la Radio Capi. On ne peut pas surtout parler du développement d'un pays si on se rend compte que les infrastructures routières ne sont pas en bon état. Parce que ces infrastructures routières permettent surtout la population de pouvoir s'entraider d'un coin à un autre en ce qui concerne les aliments, les produits alimentaires, les produits aussi pharmaceutiques et ainsi de suite. Je vais surtout me centrer sur la voie ferrée qui part à Lubumbashi vers Kasai Central, voire aussi Kasai. Là, je vois Ibebo. Souvent, c'est la voie que je prends pour pouvoir passer mes vacances à Kananga. Vous allez vous rendre compte, monsieur le journaliste, que cette voie n'est plus en bon état. La voie ferrée Lubumbashi, Kasai et ainsi de suite n'est pas en bon état. Et c'est depuis l'époque coloniale que cette voie a été instituée et elle n'a jamais connu une réhabilitation jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler. Il n'y a pas eu 3 mois, je l'ai appris par les gens de la radio Capi
qu'il y a eu des raillements, plus de 16 wagons s'étaient déraillés et on a compté plus de 10 cas de mort qui ont été causés par ces déraillements. Et moi-même, quand j'ai quitté Canara vers Lubumbashi, je me suis rendu compte que c'était déplorable et le train au bord duquel j'étais
alors, encore Christin, s'il vous plaît, vous avez évoqué la voie ferrée, ça touche à la SNCC. Vous savez que nous avons une série d'émissions consacrées à la relance des activités des entreprises du portefeuille de l'État. Demain, nous allons parler de l'AMIBA. Puisque la semaine prochaine, on pourra revenir sur la SNCC et la question de la voie ferrée va être évoquée. Mais il y a aussi aujourd'hui les gens qui partent du Kassai vers Lubumbashi par route. On en a vu plusieurs par camion qui se rendent. Mais est-ce que par rapport à la route aujourd'hui, dans quelle situation on se trouve quand on part du Kassai de Lubumbashi, de Mbujimayi, de Kabinda vers le Katanga aujourd'hui? Mais la question de la voie ferrée sera évoquée avec la SNCC dans la prochaine émission, Christin.
Oui, mais bien sûr, monsieur le journaliste, merci. J'ai encore affronté cette voie-là, la voie routière. J'ai pris les camions Kananga, Mbujimayi, vers Mbujimayi et Kananga. Vous allez vous rendre compte que la route n'est pas aussi en bon état. Et les usagers même de cette route sont entrés, et même de pouvoir, la réactivité, vous allez vous rendre compte que les camions s'arrêtent à un moment, ceux qui sont au bord du camion prennent des bêches, commencent à améliorer l'état de la route. Et les plus grands problèmes qui se posent aussi, c'est lesquels les gens qui sont aux environs de cette route sont en train de jeter de n'importe quoi sur cette voie. Certains sont en train même de creuser les minerais et le gouvernement ne m'assoie pas, ne dit pas un mot là-dessus. Appeler dans l'intellect de notre gouvernement afin qu'il puisse nécessairement mettre des moyens en place pour pouvoir nécessairement améliorer l'état des routes.
Merci. Merci beaucoup, Christin. Vous avez rejoint tout à l'heure Gentil qui disait c'est pas normal qu'on parte des Kananga à Kinshasa ou des Kinshasa vers le Kassai par camion, alors qu'ailleurs, en Angola, les gens voyagent par bus, quelle que soit la distance. Merci beaucoup. Docteur Richard, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tout le monde qui a parlé. Et félicitations pour toutes les interventions.
On vous écoute.
Oui. C'est bien d'arranger les routes. Les routes sont les infrastructures indispensables au développement du pays. C'est bien de dire tout ce qu'on a dit là. Il faut qu'on fasse ceci, on fasse cela. Est-ce que, pour moi, ça c'est la question que je pose, est-ce que les dirigeants congolais aiment le Congo et le peuple congolais? Depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui. On nous dit 55 ans d'indépendance, nous devons nous assumer. C'est très bien. On ne refuse pas de s'assumer. Mais moi, j'ai toujours considéré le Congo comme un géant qui n'a pas de l'iode dans sa thyroïde. Donc, il n'a pas aussi les hormones thyroïdiennes qui boostent le cerveau. Comment on peut casser le pays par des rébellions? On peut casser le pays par tout ce que nous sommes en train de voir? On peut casser le pays par le vol même et l'épargne du peuple. Problème de dèche internationale. Ça fait quoi autant de partenariats privés?
Docteur Richard, je crois bien, peut-être, je ne sais pas, nous sommes revenus plusieurs fois dans les émissions. Des fois, on a posé des questions à la Banque centrale par rapport à cette question de Deutsche, de l'épargne, tout ça, oui. Ok. Mais si pour revenir à notre. Pour revenir à notre changement.
Les routes, etc. Nous pouvons, nous, Congolais, produire des routes, nous, avec notre argent. Et qu'est-ce que l'État en fait là?
Et alors là, vous avez ajouté une dimension, peut-être nous allons poser la question directement à notre invité, l'honorable Franck Ndongo. Vous avez suivi ce que venait de dire Dr. Richard tout à l'heure, c'est la part de la population, comment peut-elle être impliquée dans ces travaux de la route? Il dit, nous, les Congolais, nous pouvons, mais on nous exclut. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme aujourd'hui où la population peut être partenaire direct, comme venait de le dire Dr. Richard, mais par rapport aussi à d'autres préoccupations des auditeurs?
D'accord, je salue tous les intervenants et l'intérêt qu'ils accordent à ces sujets. Ma modeste contribution ce matin, c'est qu'il faudra noter premièrement les inquiétudes relevées par les Congolais. C'est quand même une honte pour le pays, pour que l'Angola soit un modèle.
parce que l'Angola, comme j'avais dit, a un budget supérieur à 50 milliards de dollars par an, alors qu'ils ont fait la guerre pendant que nous, on était un pays stable. Je vais prendre deux exemples pour soutenir la dame qui a eu honte de ce qu'il y a en Angola et ce qu'il y a chez nous. Et l'autre frère qui a condamné comment chez nous c'est mauvais, ailleurs c'est bon. Je les salue tous. Notez que là, quand tu es en Belgique, la Belgique n'a que deux aéroports. Tout le transport, c'est, ils ont des trams, ils ont des TGV, ils ont des métros, ils ont des bus. Quand tu prends la distance entre Paris et Bruxelles, c'est 300 km. 300 km, mais en voiture, nous faisons 3 heures. Et quand tu prends les TGV de Paris pour Bruxelles, c'est une heure. Une distance de 300 km. Mais chez nous, ici, pour aller à Matadi, tu fais combien de temps? Vous avez compris la difficulté que les gens ont en province. Ce sont les hommes comme nous qui ont mis en valeur leur pays. C'est pourquoi j'ai reposé dans mon introduction. Il se pose un problème de la politique de la mise en valeur du Congo. Mais la vraie réponse, le docteur vient de poser, et la réponse au docteur, il se pose un problème de la gouvernance intègre. Et là, j'ai corrigé la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui parlent de la bonne gouvernance. Non. C'est la gouvernance intègre. Si l'homme qui veut gérer n'est pas intègre lui-même, il va procéder à voler. Il va s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? C'est l'appareillage d'une classe politique et des juissaires où l'intérêt du pays est mis de côté. Parce qu'aujourd'hui, le Congo ressemble à une maman qui a des enfants, qui ne connaissent pas la valeur de leur maman et qui ne respectent pas leur maman et qui n'aiment pas leur maman. Il y a un auditeur qui a dit, est-ce que les dirigeants congolais aiment leur pays? Tous ceux qui ont développé leur pays, il faut ceux qui aiment leur pays. Comment vous allez construire? Quand vous prenez par exemple entre la France et l'Angleterre, ils ont mis ce qu'on appelle tunnel sous la Manche. Par exemple, ici à Kinshasa-Brazzaville, comment on peut construire une tunnel où tous les fleuves congolais sont au-dessus? Il faut d'abord aimer votre pays, uniquement pour faciliter la mobilité des citoyens. Parce que je vous ai dit que la situation des réseaux, des voies de communication, c'est la vision qu'on a sur le Congo. Parce qu'il y a des provinces où vous avez beaucoup de cours d'eau, où les cours d'eau coûtent moins cher d'entretenir, d'aménager que les routes. Il y a des provinces où il y a déjà un réseau ferroviaire. Quelle est l'ambition du gouvernement? Tous les gouvernements qui se succèdent, personne n'a construit un mètre carré de voies fluviales, de réseaux, de chemins de fer. Or, le monde entier, comme la situation des transports, prenons les camps de la ville de Kinshasa, les transports. Comment vous allez imaginer que vous allez résoudre le problème des transports à Kinshasa avec les bus? C'est impossible. Et dans toutes les grandes capitales du monde, on ne peut résoudre le problème des transports urbains qu'en intervenant le bus, pardon, en intervenant les voies ferroviaires. Donc, c'est pour vous dire que le problème de la gouvernance est sérieux. Donc, il faut une gouvernance intègre. C'est-à-dire que les hommes qui gèrent, les dirigeants qui gèrent, doivent aimer le pays. Deux, un problème de vision sur la mise en valeur du Congo. Ça va ramener à élever le budget, un budget conséquent, qui permettra de la construction et de la réhabilitation des infrastructures. Le réseau routier congolais. Je vous ai dit que les Belges ont conçu un réseau routier d'extra, de comment on appelle ça, un réseau routier pour faire échapper
l'exportation
des matières premières.
Mais malheureusement, dans tout le plan des réhabilitations, on continue à tenir les mêmes routes et la même vision.
Les mêmes routes ne sont même pas entretenues. C'est-à-dire que la difficulté, c'est quoi? Au lieu de repenser un nouveau réseau routier pour l'intégration régionale, pour le développement régional, d'abord, on les répense pour réseau routier. De deux, même les réseaux routiers que les Belges ont laissés, sur 150 000 km, on a récupéré seulement 50 000. C'est-à-dire, il y a des villages entiers qui n'ont aucune voie de communication. Ils n'ont pas de chemin de fer, ils n'ont pas de route et ils n'ont pas de voie fluviale que l'autorité reconnaît. C'est par là que la décentralisation permettra de rapprocher l'administration de l'administré. Malheureusement, c'est mal parti.
Parce que vous avez évoqué la décentralisation, est-ce que vous pouvez aussi évoquer cette question en termes d'expertise aujourd'hui?
Est-ce que la RDC a une expertise aujourd'hui qui puisse prendre en charge toute cette politique de route de développement, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
Non, non, le problème n'est pas de l'expertise. Parce que, vous avez posé une question, l'important de la population. Il y a en Chine, par exemple, on a créé ce qu'on appelle la haute intensité de la MEDER. Et d'ailleurs, à l'époque coloniale, on appelait les cantonnages manuels. Donc, ici, il y a une bonne politique. Toutes les routes en terre là-bas, la population peut servir dans les cantonnages manuels et ça va même résoudre le problème de chômage. Pas qu'ils ont un salaire. Parce que, quand vous voyez, il y a des routes entières où vous n'avez pas d'érosion, où la population peut faire manuellement même une distance de 200 km. L'essentiel, c'est de la politique. Alors, si aujourd'hui, dans la décentralisation, il se pose un problème des fonds de rétrocession aux provinces, l'État, le gouvernement central, ne rétrocède pas. Je sais que le vrai problème est le problème de la gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. L'absence de gouvernance intègre fait que tout est compliqué, tout est difficile. C'est cela que ça ne marche pas. Aujourd'hui, les Congolais sont abandonnés comme s'il n'y a personne qui peut intervenir pour les aider, pour résoudre leurs problèmes, pour résoudre leurs difficultés. Voilà pourquoi je pense, pour ma part, que la solution, en fait, c'est la démocratie, c'est l'alternance. Il faut qu'il y ait d'autres Congolais qui viennent avec d'autres politiques pour essayer d'amener une autre politique pour le pays. Parce que la politique actuelle n'amène pas de réponse à ces problèmes parmi tant d'autres. La question de sécurité est une priorité pour entretenir les routes aussi. Parce qu'on ne sait pas protéger un peuple dont on ne sait pas accéder là-bas.
Merci. On va revenir à vous, le temps d'écouter Jean-Balthazar qui est à Kisangani, Michel à Kinshasa, Maurice à Kinshasa, mais il y a aussi le flash d'information qui va intervenir. La question du maintien du réseau routier de la RDC au centre de notre échange. Djuma Wadjuma nous a écrit des Bougavou. Il dit on peut recourir au partenariat public-privé pour résoudre cette question, mais faudrait-il aujourd'hui qu'on ait des mécanismes de gestion transparente de fonds qui peuvent être investis et collectés dans ces travaux de réhabilitation de route, même avis partagé aussi par Alino Mondo qui nous a écrit des Goma dans la province du Nord Kivu. Olivier Masaki qui est à Bukavu, lui insiste beaucoup sur la transparence dans la gestion qui sont affectées aux travaux de réhabilitation de maintien du réseau routier. On se retrouve juste après le flash d'information de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
On se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission consacrée au réseau routier de la RDC. Jean Balthazar, vous êtes à Kisangani, dans la province de la Tchopo, je crois bien, Jean Balthazar, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs.
On vous écoute rapidement.
Oui, le sujet d'aujourd'hui est plus que pertinent parce que l'état de nos routes laisse à désirer. Vous savez, Pierrot, lorsque vous vous permettez de quitter le pays, puisque moi je suis à l'Est, vous vous rendez à l'Ouganda. Mm-hmm. Et que vous voulez vraiment vous rendre à Kampala, par exemple, puisque c'est de Arua jusqu'à Kampala, c'est une distance d'à peu près 1000 km, 600 miles, l'histoire comme ça. Vous n'avez que 5 heures de voyage. Et vous ne déboursez qu'une somme équivalente à peu près 10 dollars. Mmh. Vous voyez, puisque le temps de la route est vraiment très très bon. Mais ici chez nous, en RDC, nous avons des sérieux problèmes. L'honorable Frère Diongo qui est sur votre plateau là m'a beaucoup énervé aujourd'hui, puisqu'il a parlé de la gouvernance. Dans notre pays, le mal est profond, il est général, à cause de la mauvaise gouvernance. On peut faire intervenir les privés dans ce secteur aujourd'hui. Mais quel résultat allons-nous attendre de l'intervention des privés dans ce secteur? Puisque d'abord, la sélection de ces structures privées-là va déjà constituer un sérieux problème pour la population.
La question des marchés, c'est déjà un problème, oui. Voilà, merci beaucoup Balthazar. Vous estimez, quand bien même on pourrait recourir au partenariat public-privé, mais la transparence dans l'attribution des marchés va poser problème, dans la passation des marchés, ça pourra aussi poser problème, mais c'est pour quels résultats? C'est pourquoi l'honorable a beaucoup insisté sur la vision qu'on veut donner, et on pourra poser des actions pour répondre à cette vision, et comme ça on pourra atteindre les objectifs. Merci beaucoup. Nous avons Michel ici à Kinshasa. Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
Voilà, on vous écoute, Michel.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour, honorable invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute rapidement, on est à la deuxième partie de l'émission.
Bon, je vais vous demander, M. Pierrot.
Oui, allez-y, oui.
Je salue l'intervention de notre très cher consul honorable, Franck Diongo. Il m'a presque pris tous les éléments sur lesquels je voulais intervenir.
Mm-hmm.
Et je voulais néanmoins insister sur deux points. Le premier point, c'est sur les réseaux routiers nationaux. Je voudrais vous faire remarquer que le pays n'a pas un réseau routier national. Parce que par définition, un réseau routier national, c'est un réseau qui met en connexion l'ensemble du territoire national.
Mm-hmm.
Vous êtes d'accord avec moi que ce réseau-là n'existe pas chez nous. Deuxièmement, nous avons hérité d'une classification routière qui date de l'époque coloniale. Cette classification routière avait un but bien précis. La classification routière coloniale avait pour but de favoriser l'exportation des matières premières trouvées au Congo. Donc, la définition du réseau, si on peut l'appeler ici, qu'on a hérité de la colonisation, n'est pas un réseau de développement. Donc, il est plus nécessaire que maintenant, 50 ans après l'indépendance, surtout qu'on a fait le démembrement des provinces, que le pays se dote d'un réseau routier national qui va connecter l'ensemble du territoire national. Ça, c'est de un. De deux, en ce qui concerne les partenariats public-privé, vous conviendrez avec moi, M. Pierrot, que le partenariat public-privé fait appel aux investissements privés. Or, les privés, hormis les facteurs d'instabilité politique chez nous et tous les autres facteurs, il y a un facteur de rentabilité de ces projets-là. Aucun privé n'ira investir sur un tronçon routier où il n'est pas que 10 véhicules par jour. Comment il va rentabiliser son investissement?
Mm-hmm.
Donc il est hors de question que l'investissement, le partenariat public-privé va résoudre le problème que nous avons. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Donc, les partenariats public-privé, les privés ne seront attirés que sur les tronçons routiers comme Kinshasa-Matadi. C'est le cas dont l'honorable avait évoqué avec les partenaires qu'on a avec les Chinois sur Kinshasa-Matadi. Pourquoi? Parce que sur ces tronçons-là, vous avez des milliers de véhicules, des centaines de véhicules qui passent par jour. Dès qu'on établit le péage, on pourrait bien amortir les capitaux investis.
Merci beaucoup, Michel. On a suivi, vous avez posé deux problèmes majeurs. Si on n'a pas d'abord défini ce qu'est notre réseau routier, alors les réponses seront aussi mauvaises. Ça, c'est vraiment important. Il faudrait d'abord qu'on puisse définir et classifier les routes selon l'état des besoins actuels. Merci beaucoup. Nous avons écouté Maurice qui est ici à Kinshasa et les derniers auditeurs aussi qui viennent de s'ajouter. Maurice, merci de vous être joint à nous. En deux minutes, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue, Maurice?
Notre prédécesseur, bonjour Pierrot, on dit l'essentiel, et en fait l'honorable qui est avec vous, en fait, oui, et toutes les interventions qui ont été faites par notre prédécesseur. Donc en conclusion, je dirais que quelqu'un qui a parlé tout à l'heure là de l'Ouganda, il a pris l'exemple de l'Ouganda, nous pouvons prendre aussi même Brazzaville, d'autres pays, les Gabon, partout où j'ai pu aller, j'ai constaté qu'il y avait dans ces pays des gouvernements des républiques. Donc, au Ouganda, il y a un gouvernement de la République. Mais en RDC, il y a un gouvernement de la Gombe. Hein? Donc, vous prenez seulement le seul, prenez seulement, posons un état de lieu de la ville-province de Kinshasa. Le vendredi passé, j'ai pris un bus au niveau de l'Ipen pour Victoire. J'ai quitté 16h là. 16h, j'ai monté dans le bus de Transco. 16h à 22h, nous sommes arrivés à la station de Macampagne. Vous pouvez vous imaginer 6 heures de temps entre Ukraine et la station Macampagne. Pourquoi? Parce que la route rond-point Ukraine est coupée. Et parlons de la route Ukraine, et plutôt rond-point de triangle entre
rond-point là-bas,
entre rond-point là-bas et Ukraine, c'est coupé. Alors, lorsque un gouvernement de la République a même du mal de gérer même la ville province, la capitale, où siègent toutes les institutions politiques et administratives du pays, combien plus forte raison ce gouvernement se soucierait du territoire national. Alors, la Gombe dit ceci, notamment un gouvernement de la Gombe. Un gouvernement, ce pays est très grand pour les leaderships. Il y a un leadership très faible qui n'est pas à la taille, en fait, de politique et tout. Ce pays, aux dimensions continentales, impose dans ce pays.
Merci beaucoup. Merci, Maurice. Vous estimez que la vision aujourd'hui s'est limitée à Gombe. Faudrait-il encore voir toutes les difficultés aussi des routes? Vous avez évoqué la question de déplacement dans la capitale. C'est un problème très, très sérieux. Le nombre d'heures qu'on peut mettre sur un tronçon de 30-20 km. Et là, vous êtes revenu sur la question de la vision qu'on a de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, Maurice. On termine avec vous, Junior. Vous êtes à Kananga. Dans 40 secondes, votre intervention avant que notre invité puisse conclure cet échange. Junior, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute rapidement, Junior.
Oui, oui, moi je vais intervenir dans mon province que j'habite.
Oui, allez-y rapidement. Vous êtes à Kananga, au Kananga central, oui.
Par exemple. Oui, oui, c'est ce que je dis, j'ai dit. Ici à Kananga, par exemple, pour quitter Kananga Ndemba, 60 km ici, monsieur le journaliste, vous allez faire même une semaine. Nous avons un gouvernement provincial. Hein? Vous allez à Lumbashi, vous quittez Lumbashi, Kasi, Lumbashi, Kologie, Lumbashi, Kasimbashi. Tout ça, on est sur quel bout prenez. Mais ici, je n'ai pas ça, c'est un temps de trouver un bouton tout près ici. C'est tout un problème, même dans les villes, surtout dans les villes ici, ville de Kananga. Pour trouver un bouton, c'est tout un problème.
C'est un problème. Voilà, ça, ici, il faudrait interpeller aujourd'hui, que ce soit les gouvernements centrales, les gouvernements provinciaux, sur leurs responsabilités, partir de Kananga Demba, 60 km, une semaine en route, quand même, c'est une préoccupation très sérieuse. Merci aux uns aux autres pour l'intérêt que vous avez pour ces sujets. Nous revenons à vous, honorable Franck Dongo. Ce n'est pas la dernière fois qu'on se retrouve autour de cette question. Comme je le disais, la semaine prochaine, on pourra bien avoir aussi le DG des FONER pour faire le point, comme il y a cette assemblée générale qui s'étient de fonds d'entretien routier de l'Afrique. On pourra voir quelles sont les résolutions qui sont prises et quelle est la situation par rapport à la RDC. Vous avez suivi les uns et les autres et les grandes lignes qu'on peut retenir pour terminer cette émission en une minute et demie. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y a d'abord l'absence d'un programme pour le développement du Congo en matière d'infrastructures, au-delà duquel on trouvera dans chaque province, dans chaque ville, des infrastructures à construire, que ce soit sur le plan routier, sur le plan ferroviaire ou sur le plan fluvial, même au niveau des aéroports. Mm-hmm. Deux, il se pose un problème de vision sur le Congo, même ce plan émanerait de la vision. Et dans la vision, il y a le programme de la mise en valeur pour mettre en exécution ces programmes-là. C'est là qu'on cherchera les financements, comme l'Angola en trouve 50 milliards minimum par an. Là, vous avez un problème donc, de politique, un problème de gestion, un problème de transparence. Et dans les cas de FONER, il se pose aussi un problème de choix d'affectation de ressources. Les ressources locales, même que les FONER a, ne sont pas optimisées par déficit de transparence. L'exemple partenariat public-privé, dans les cas de Chinois, dans la route numéro 1, est un mauvais exemple parce qu'ils ont ignoré la loi. Parce que les FONER a une loi, les FONER a le monopole sur le recette de payage. Donc voilà un peu en termes définitifs. Et donc, aujourd'hui, le pays est déçu. La solution, c'est l'alternance au pouvoir. Merci beaucoup, Franck Dongo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du mouvement Lumumbiste Progressiste, un parti politique de l'opposition, mais aussi ingénieur conseil en construction civile. En cette qualité de double casquette que nous avons reçue dans ces magazines, on retrouve parole aux auditeurs demain à 11h30 de Kinshasa. Sera consacré à la relance de la société minière de Bakwanga, de l'Amiba. C'est le débat pour demain. Merci à Paul Vaganema qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Berry Franklin Louchaga qui était au standard mais aussi à la réalisation. Pierrot et la musique vous la présenter sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Parole aux auditeurs est sur www.radiocapi.net. Au revoir.